Bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un air pur ou presque qui pourrait souffler sur les quais du RER. Depuis hier, la SNCF expérimente de nouvelles machines afin d'améliorer la qualité de l'air que respirent des millions de voyageurs. Reportage à suivre dans un instant. Quand les citoyens dépensent 40% de leurs revenus dans leur logement, le constat désormais partagé à l'échelle européenne, un appel est lancé aujourd'hui pour favoriser le logement abordable. Dans l'actualité également, le site impots.gouv.fr, victime hier soir d'un bug géant. Résultat, vous aurez 48 heures de plus pour déclarer vos impôts. L'armée soudanaise annule tous les accords passés avec les contestataires au lendemain d'un bain de sang qui a fait plus de 30 morts à Khartoum. On parlera aussi de la mission de réflexion du gouvernement pour une meilleure ouverture sociale des grandes écoles et de la sortie du dernier film de Roberto Saviano sur les baby gangs.
Et je vous rappelle qu'Emmanuelle Ménard, la députée d'hiver droite de l'Hérault, est l'invitée de Léa Salamé tout à l'heure à 7h50.
France Inter.
Des particules de pneus, de freins, de carburant, l'air du métro et du RER, Sébastien, c'est sûr, n'est pas bon du tout pour la santé.
C'est encore pire que le périph' aux heures de pointe. Sous la terre, en effet, l'air est nettement plus pollué qu'à l'extérieur, jusqu'à 30 fois plus de particules fines à certains endroits. Le constat est partagé depuis des années par tout le monde, les usagers, les syndicats, les autorités sanitaires et même par la SNCF et la RATP. Alors pour tenter de purifier cet air de mauvaise qualité, deux expérimentations sont lancées cette semaine à Paris. Le reportage de Delphine Evenou.
Sur le quai du RERC, station avenue Foch, trois cages en fer protègent six gros ventilateurs, des filtres par ionisation positive. Przemysław Brozina, chargé de l'innovation chez Air Liquide, le fabricant.
Vous avez d'un côté l'air pollué qui est aspiré à l'intérieur de la machine où il est soumis à un champ électrostatique, comme si on aimantait chacune des particules présentes dans l'air. Ces particules vont être attirées par une masse où elles vont venir se coller.
Un test grandeur nature après le laboratoire pour évaluer en conditions réelles laquelle des six machines est la plus efficace. Un système similaire de purification de l'air est aussi testé dès vendredi dans une autre station de métro. Patrick Rossi de la Fédération Transport Environnement de la CFDT salue l'initiative, mais il faut aller plus loin et plus vite, ajoute-t-il.
Vous et moi, en tant que citoyens, nous ne devons pas être exposés à plus de 50 microgrammes par mètre cube. Dans un métro, vous avez 200 microgrammes par mètre cube. Il faut s'affranchir du diesel et de l'essence qui sont utilisés. Par exemple, vous avez des groupes électrogènes la nuit, c'est catastrophique en matière de pollution.
Les résultats de ces expérimentations seront publiés à la fin de l'année. La CFDT attend de son côté la décision du Conseil d'État saisi en avril pour revoir les normes d'exposition des travailleurs aux particules fines qui présentent en l'état des risques respiratoires et cardiovasculaires selon l'Agence de sécurité sanitaire.
Delphine Evenou, et puisqu'on parle environnement, sachez que demain, mercredi, France Inter se remet au vert. Deuxième journée spéciale, le plastique non merci en partenariat avec Combini ou comment apprendre à se passer du plastique. Toute la journée, des invités, des reportages, de l'interactivité. N'hésitez pas à nous appeler dans le 7-9, le 13-14 spécial et le téléphone sonne. Et dès aujourd'hui, faites un tour sur notre site franceinter.fr pour vous essayer au quiz. Nicolas, savez-vous recycler votre plastique?
7h34, voilà Sébastien, un autre défi auquel la planète est confrontée. C'est la question du logement abordable.
Oui, le logement abordable, effectivement, il y en a de moins en moins. C'est devenu une préoccupation mondiale. D'ici quelques années, la majorité des êtres humains vivra en ville avec à la clé des risques d'augmentation des loyers. En clair, c'est une crise du logement à l'échelle planétaire qui menace. Face à cela, des promoteurs, des acteurs du logement de plus de 30 pays, mais aussi des métropoles comme Lyon ou Paris, lancent aujourd'hui l'appel de Lyon, un appel en forme d'alerte pour dénoncer cette raréfaction des logements abordables qui s'aggrave depuis ces 10 dernières années. Claire Chaudière.
Un Européen sur 10 dépense désormais plus de 40% de ses ressources pour se loger. Des mouvements de protestation parcourent l'Europe, comme récemment en Allemagne, et les conséquences de cette pénurie de logements abordables sont sous-évaluées, scande l'appel de Lyon.
C'est aujourd'hui une arme de destruction massive de la cohésion sociale en Europe.
Cédric Van Stevendel préside Housing Europe, la Fédération européenne du logement social, à l'initiative de ce cri d'alarme.
C'est autant d'argent qu'on ne peut pas investir dans les dépenses de loisirs, dans l'éducation de ses enfants. Ça amène à du repli. En 10 ans, on a perdu la mémoire et la raison. Et j'en veux pour preuve cette aberration qui fait qu'en 2018, on ait retrouvé les prix du logement de 2008, pré-crise des subprimes.
Porté par la construction de logements sociaux, l'accès à un toit abordable, c'est plutôt moins détériorée en France qu'ailleurs sur la décennie 2008-2018, mais l'Hexagone décroche à son tour, s'inquiète Laurent Guéquière en charge des questions internationales à l'Union sociale pour l'habitat.
Il y a autant du côté de Londres que du côté de Berlin une volonté de réinvestir maintenant dans le logement social. Alors qu'en France, on est en train de casser la machine en remettant en cause le modèle économique du logement social.
Un appel en direction notamment de l'Union européenne pour un engagement à ne plus pénaliser, à encourager même les pays qui investissent massivement dans le secteur du logement.
Claire Chaudière, la rapporteure spéciale de l'ONU pour le logement décent, fera également le déplacement à Lyon pour apporter son soutien à cette démarche. Le site internet des impôts en carafe. Donc trop de gens se sont connectés hier soir pour remplir leur déclaration de revenus en ligne. Plus de 3 millions d'un coup, c'est trop pour les serveurs du site impots.gouv.fr. Au point que Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics, a exceptionnellement octroyé hier 48 heures de plus aux Français pour faire leur déclaration en ligne. Maximum donc jeudi soir à 23h59. Que ce soit dit, à suivre en économie aujourd'hui la décision du conseil d'administration de Renault qui se réunit cet après-midi pour décider s'il accepte ou non la fusion proposée par l'italo-américain Fiat Chrysler, un projet largement soutenu par l'État français, premier actionnaire du constructeur français et qui exige d'avoir un siège d'administrateur dans le prochain groupe. Comment faire en sorte que les grandes écoles ressemblent davantage à la société française? Le gouvernement lance aujourd'hui une mission de réflexion sur la mixité sociale au sein des établissements scolaires les plus prestigieux comme Polytechnique, Normale Sup ou HEC. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, souhaite diversifier les profils et envisage pourquoi pas de recourir aux quotas. Les précisions de Sonia Princey.
Ce sont les établissements les plus prestigieux de l'enseignement supérieur, ceux qui peuvent ensuite faire figure de modèle pour toutes les grandes écoles. La ministre a choisi de leur confier cette mission, trouver des pistes pour diversifier les origines sociales des étudiants. Les conclusions seront remises à la mi-juillet. En attendant, Frédéric Vidal préconise quelques solutions, des quotas notamment. Le mot ne doit plus être tabou, selon la ministre. C'est déjà le cas dans les BTS et les DUT. Des quotas de bacheliers professionnels et technologiques sont imposés, des places leur sont réservées depuis le précédent gouvernement. L'idée serait d'imposer aussi des quotas de boursiers dans les grandes écoles. Aujourd'hui, l'école Polytechnique, par exemple, n'accueille que 11% d'étudiants français boursiers sur critères sociaux, HEC 18%, alors que les universités comptent près de 40% de boursiers. Le gouvernement veut rééquilibrer les filières de l'enseignement supérieur et la ministre propose aussi des voies d'accès diversifiées, des prépas intégrés par exemple, comme dans certaines écoles d'ingénieurs, pour ne plus entrer uniquement par la voie des concours discriminants socialement pour ceux qui n'ont pas les codes.
Sonia Princey, direction Londres maintenant avec le deuxième jour de la visite imprévisible de Donald Trump. Après avoir goûté aux ors de la royauté, après avoir vertement tensé le maire de Londres, Sadiq Khan, qualifié de loser hier sur Twitter, place à la politique et au sujet qui fâche, réunion avec Theresa May et avec des grandes entreprises pour préparer l'après-Brexit. Une visite mouvementée, ponctuée de manifestations anti-Trump, mais pas seulement, dans la rue, au pays du Brexit Party, on trouve aussi beaucoup d'amis du président américain. Reportage dans les rues de Londres avec Louise Baudet.
God bless America, God bless Donald Trump.
Leur banderole à eux souhaite la bienvenue au président américain.
C'est un grand homme, un grand président. Les gens retrouvent du travail en Amérique. Quand il promet quelque chose, il le fait.
Il a commencé à construire un mur vraiment bien. Dehors les immigrés illégaux.
Maria conserve de son Espagne natale un accent prononcé, ce qui ne l'empêche pas d'être 100% d'accord avec George de Kenilworth près de Birmingham.
C'est la bonne personne, à la bonne place, il a du cran, il est intègre et il ne se laisse pas faire.
Et au Royaume-Uni, ce serait qui la bonne personne au bon endroit?
Boris Johnson est un type plutôt bien.
Nigel Farage est son parti du Brexit, le leader de cette Angleterre qui aime Donald Trump.
En 1943, le président Roosevelt est venu voir Churchill. Et moi, j'espère que Donald Trump rencontrera notre nouveau Churchill, Farage.
Couronne sur la tête, banderole à la main, William parle de fierté retrouvée.
Tellement de gens sont venus pour la photo sous la banderole. Ils étaient libérés.
Autre banderole et toute autre ambiance. Tout à l'heure, à Trafalgar Square, des dizaines de milliers de personnes se sont donné rendez-vous pour une manifestation anti-Trump à 11h. Londres, Louise Baudet, France Inter.
Apple, Facebook et Amazon, ces géants du numérique en position dominante, nuisent-ils à la concurrence? Les GAFA sont désormais dans le viseur des autorités antitrust aux États-Unis. Selon la presse américaine, le ministère de la Justice et la Fédération du Commerce se sont réunis ces dernières semaines pour se répartir les dossiers. En Russie, en revanche, on ne fait pas dans la dentelle avec les entreprises du numérique. Le gendarme de l'Internet russe a affirmé hier que la célèbre application de rencontre Tinder allait désormais devoir partager sur demande les données de ses utilisateurs avec les services de sécurité russes, dont le FSB.
Et à 7h40, on termine entre littérature et cinéma. Sébastien, le dernier best-seller de l'italien Roberto Saviano arrive aujourd'hui sur les écrans.
Piranhas, l'histoire d'une bande d'adolescents à Naples fascinés par l'argent et la criminalité organisée, le phénomène des baby gangs dans la lignée des parrains du précédent film Gomorra, un film cru et violent récompensé d'un ours d'argent lors du dernier festival de Berlin. Corinne Pellissier.
Depuis des années, c'est son grand sujet, la criminalité organisée dans le sud de l'Italie. Les histoires de clans et de pouvoir qui oblige Roberto Saviano à vivre sous protection policière, loin de son pays. Dans ce nouveau film, il porte à l'écran avec Claudio Giovannesi une autre facette de cette mafia napolitaine, les baby gangs, ces jeunes fascinés par l'argent et le pouvoir qui affolent depuis quelques années les statistiques sur la délinquance juvénile. L'histoire de la bande que l'on suit dans le film n'est pas tirée d'un fait divers, mais illustre avec beaucoup de justesse le parcours de ces adolescents obsédés par les vêtements de marque, les grosses montres et les armes avec lesquelles ils se prennent en selfie. Un univers authentique et des comédiens non professionnels qui crèvent l'écran dans ce film cru et violent sur le basculement dans le crime et la fin de l'innocence. Coup de cœur pour Nicolas, le leader de ce baby gang plus vrai que nature, un visage d'ange et une détermination de fer qui donne souvent froid dans le dos.
Voilà l'adaptation du roman Piranhas de Roberto Saviano, réalisé par Claudio Giovannesi.
Merci Sébastien Legeni.